Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Alors, chers amis internautes, bonjour. Bienvenue dans notre émission Au fil des pages, une émission qui aujourd'hui est consacrée à l'éditeur Jacques Hesse et à une association à l'origine de laquelle il se trouve, qui va d'ailleurs nous emmener en Roumanie. Jacques Hesse, bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais à l'instant, vous êtes éditeur et la maison d'édition que vous avez créée d'ailleurs porte votre nom, les éditions Jacques Hesse. Vous avez créé cette maison d'édition en 1989. Vous vous êtes installé à Saint-Claude-de-Diray, vous allez nous dire où ça se trouve, je crois, quelque part dans le Loir-et-Cher.
Saint-Claude-de-Diray, oui, dans le Loir-et-Cher, en fait, exactement entre Blois et Chambord.
D'accord. Alors, comment est-ce qu'on devient éditeur? J'imagine que ça ne s'improvise pas, que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi.
Oui, bah, disons que ça a été, je pense, l'aboutissement d'une passion. J'ai toujours eu la passion du livre. Et bon, j'ai commis un ouvrage fin des années 70 avec un éditeur de Paris, Berger Levrault. Puis ensuite, il se trouve que j'ai créé une galerie d'art à Blois, qui s'appelait la Galerie La Marge, à côté du château de Blois, et qu'un de mes projets dans le cadre de cette galerie était petit à petit de commencer à faire de l'édition d'ouvrages, notamment avec des artistes que j'accueillais.
Alors, il y a quelque chose de, je dirais, d'héroïque, entre guillemets, de devenir comme ça éditeur ou de créer une maison comme vous l'avez fait, parce que je pense qu'il faut être polyvalent, c'est-à-dire que vous êtes à la fois l'éditeur, celui qui prend les risques et qui pose les choix éditoriaux, vous êtes sans doute aussi le chargé de presse, vous êtes celui qui distribue, donc vous êtes à la fois devant les presses, vous rencontrez les auteurs, vous allez ensuite démarcher les libraires, expliquez-nous un peu.
Alors disons, quand on crée une petite structure d'édition et qu'on reste une petite structure d'édition, nous sommes deux et demi à travailler depuis 89 dans cette structure. Évidemment, on a chacun plusieurs casquettes, comme vous le dites, concernant les choix éditoriaux, concernant tout le travail de suivi de fabrication de l'ouvrage chez l'imprimeur, chez le photograveur, le photocomposeur le cas échéant. Et puis aussi tout le suivi de la commercialisation des livres, soit par le biais d'un diffuseur-distributeur, soit par d'autres réseaux que l'on peut avoir, ou de la vente correspondance, par correspondance que nous assurons depuis le début aussi. Mmh.
Alors on a d'ailleurs le rendu de l'intensité de l'action que vous menez quand on voit un peu votre catalogue, parce que je dirais que les maisons d'édition comme la vôtre, même si elles n'ont pas une masse salariale considérable, comme on peut le penser pour les grandes maisons d'édition parisiennes, elles ont quand même un catalogue très vivant, et quand on feuillette le vôtre, on voit des noms tout à fait éloquents. Je pense à Louis Calaferte, qui était, je crois, une grande rencontre dans votre vie. Il y a aussi Claude Seignol, qui est quelqu'un qu'on aime tous les deux et qu'on salue d'ailleurs. Quelle est d'ailleurs la ligne éditoriale de votre maison d'édition, si on peut parler de ligne éditoriale?
Alors actuellement, la ligne éditoriale principale de la maison d'édition concerne essentiellement tout ce qui touche au patrimoine et à la nature. Et donc nous faisons différents types d'ouvrages allant de la jeunesse au beau livre. Dans le cadre de la jeunesse, je citerai essentiellement deux collections que nous avons. Une collection que nous avons faite avec le Conservatoire du Littoral et une autre collection qui a été faite à la demande aussi des parcs nationaux sur la faune sauvage, une collection qui continue d'exister et qui va prochainement, au mois d'avril et mai, faire l'objet d'une exposition au Pôle Enfance de la Cité des Sciences de la Villette.
Alors, je citais aussi deux personnages importants. L'un nous a quittés, hélas, l'autre est toujours parmi nous, bien vivant. C'est Claude Seignol et Louis Calaferte.
Alors, Claude Seignol est toujours vivant.
Voilà.
Il va avoir 90 ans cette année. Moi, c'était quelqu'un que je connais depuis que je suis, je dirais, adolescent. Je connaissais son œuvre à ce moment-là. Quand j'étais étudiant à Paris, j'avais même essayé d'avoir un rendez-vous avec lui, qui n'a pas eu lieu finalement. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant tout juste 20 ans, en 86, à l'occasion du montage d'un spectacle en Sologne, une adaptation de Marie Lalouve.
C'est quelqu'un à qui les habitants de la Sologne doivent beaucoup, il faut le dire.
Je pense, oui. Et c'est là où on a fait un premier projet. À cette époque-là, j'avais donc cette galerie La Marge. Et on a fait un ouvrage de bibliophilie qui s'appelle Le Meneur de loups. C'est un texte qui se trouve dans Marie la Louve et qui avait été illustré, accompagné de gravures sur cuivre de Philippe Lejean de Quater, un artiste illustrateur avec qui je travaille toujours d'ailleurs.
Alors, je parlais tout à l'heure des problèmes qui se posent aux petites structures comme la vôtre. On sait que souvent, pour un éditeur, le nerf de la guerre, c'est la distribution. Quelles sont les difficultés, justement, qui sont liées au métier que vous exercez, puisque vous avez choisi de l'exercer en province, ce qui est une difficulté peut-être supplémentaire. Et justement, est-ce que la distribution, c'est quelque chose qui se contourne facilement?
Ben disons que la distribution, ça concerne la distribution dans j'irais dans le réseau librairie en France. C'est un gros problème parce que d'une part, ça coûte cher. Et le problème pour les petits diffuseurs, c'est de trouver un réseau qui soit, j'irais, fiable. Il y en a très peu. Il y a une concentration de plus en plus grande des systèmes de distribution. Et évidemment, la place est occupée essentiellement par les très grosses mécanique de l'édition et les petites sont un peu laissées pour compte. Alors il y a eu des structures de distribution, notamment qui ont été adaptées en principe pour la petite édition, mais qui ont par deux fois, sinon trois fois, sombré et qui ont laissé sur le carreau beaucoup de petites structures d'édition. Nous-mêmes avons fait partie de ces problèmes directement. On connaît très bien ces passages qui ont été très douloureux. Actuellement, nous avons après une bonne année de réflexion, il y a maintenant 4 ans, on a trouvé un réseau de distribution qui correspond vraiment à notre ligne éditoriale.
Quel regard les grandes enseignes, ces mastodontes, on ne va pas donner le nom, mais chacun voit de qui il s'agit, quel regard ces grandes enseignes qui pratiquent le zéro stock posent sur des initiatives comme la vôtre?
C'est très dur de travailler avec ces grandes enseignes.
Oui, d'accord.
Ces grandes enseignes ne font pas de fonds de librairie et il se trouve que de 2 mois ou 3 mois plus tard, les livres qui ne sont pas vendus sont retournés chez le distributeur et donc
Et que ça coûte, bien
chez
sûr.
l'éditeur. Ça a un coût dans la mesure où c'est un coût financier et en plus souvent c'est des livres qui ont été manipulés, qui sont pour une partie. Souvent en mauvais état et donc totalement invendable par la suite.
Alors, Jacques, si vous le voulez bien, on va marquer une petite pause et nous nous retrouverons ensuite pour parler de francophonie. Je crois que vous allez nous faire voyager un peu et nous emmener sur les bords de la mer Noire en Roumanie.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Alors nous retrouvons l'éditeur Jacques Hess avec qui nous allons maintenant parler de la bibliothèque française Eugène Ionesco à Galați, sur les bords du Danube, en Roumanie. Une bibliothèque qu'il a contribué à créer, de toutes pièces d'ailleurs. Alors Jacques Hess, je crois d'abord que, en fait, entre la Roumanie et vous, avant la création de cette bibliothèque, il y a une très vieille histoire d'amitié.
Oui, bon, il se trouve, si on veut remonter très loin, que la meilleure amie d'enfance de ma mère était mariée à un Roumain. Ces gens étaient sur Paris. Quand j'étais étudiant à Paris, j'allais les voir une fois par semaine. Donc j'ai rencontré dans les années 60, fin des années 60, pas mal de Roumains. Et c'est ce qui m'a donné envie en 67 de partir là-bas, où j'ai fait un grand ami, pas très loin de la ville de Galați d'ailleurs, qui s'appelait Paul, lequel, 2 ou 3 ans plus tard, s'est marié avec une femme professeure de français. Donc j'ai eu l'occasion de retourner là-bas en 73 avec ma femme pour passer un mois avec ce couple d'amis. Et nous y sommes retournés quelques années plus tard. Cette femme est venue en 80 en France, invitée par nous. Et puis pendant 10 ans, il ne s'est rien passé. Dans la mesure, dans les années 80, ça a été le noir total. On
n'avait
aucune nouvelle de cette femme qui s'appelle Anca Mihailescu. Et mon souvenir, c'est que le 2 janvier 90, j'ai réussi à la retrouver en téléphonant.
Il faut peut-être préciser que c'est juste au lendemain de la révolution.
Juste
de
après, évidemment. Oui, oui. J'avais essayé, moi, la fin décembre 89. Voilà. Mais je veux dire que le téléphone ne répondait pas, le 1er janvier non plus, le 2 janvier, ça a été le, on a pu la, donc la joindre, sans savoir si elle habitait toujours au même endroit. Et je lui ai tout de suite dit qu'on pouvait lui envoyer des vêtements, de la nourriture, des médicaments, si besoin était. Elle m'a dit ça, on a su toujours s'en passer, mais on n'a plus de livres et ça, on peut pas s'en passer. Et disons que la, l'histoire a commencé comme ça.
Alors, il y a un premier envoi de livres, je crois, et puis il y a ensuite une autre rencontre avec un universitaire roumain assez réputé qui s'appelle, je crois, Nicolae Tafta.
Oui, alors au moment où on a lancé une opération d'envoi de livres au niveau de la région centre, avec des bibliothécaires, des libraires, des bénévoles, des particuliers, disons que c'est sur place, là-bas, constitué... Je dirais une nouvelle amitié entre Anca Emilescu et Nicolae Tafta, qui est professeur de français à l'université de Galatz et qui a permis d'une part de faire un don de livres dans une école à Galatz, dans un collège, et également un don de livres à l'université de Galatz à ce moment-là. Donc c'était en 90.
Alors je crois en plus que cet universitaire, Nicolae Tafta, est à la fois un fin connaisseur de l'œuvre de Proust, mais aussi le spécialiste de l'œuvre de Jean Genet en Roumanie.
Nicolae Tafta a une culture assez phénoménale. Il était venu précédemment une seule fois en France, dans les années 70, par le biais de l'Alliance française. Et c'est quelqu'un qui parle un français parfait et qui a une culture très vaste. Il peut vous réciter aussi bien des poèmes du Moyen-Âge que des passages de Fernand Reynaud, et c'est un spécialiste de Jean Genet. J'ai personnellement publié sa thèse sur Jean Genet, qui s'appelle « Jean Genet, une plurilecture ». Je l'ai fait au départ pour, je dirais, l'aider dans son cursus universitaire, et donc j'avais fait un tout petit tirage à 200 exemplaires, et en fait, son travail a été particulièrement apprécié parce que je l'ai réédité trois fois.
Oui, d'accord. Alors, je crois qu'aujourd'hui, une association est l'armature de cette bibliothèque universitaire. Je crois que cette bibliothèque s'est aussi trouvé un lieu à Galatz, vous allez nous en parler, et qu'elle emploie même deux permanents.
Voilà. Alors, bon, à l'origine, il y avait donc un fonds qui était dans un collège de Galatz, qui était en limite de la ville. Galatz est une ville de près de 400 000 habitants. C'est une des grandes villes de Roumanie.
Vous pouvez peut-être nous la situer un petit peu en Roumanie?
Oui, qui est sur le Danube, dans le bas Danube, à 150 kilomètres de la mer Noire. Ça a été un grand port. Il a perdu de sa gloire suite à l'embargo des armes sur la Serbie, parce que c'était un lieu de passage important pour ça. Et c'est à la frontière de la Moldavie. Donc c'est une ville importante. Industriel, où il y a à la fois, enfin, les deux industries importantes, c'est un grand complexe sidérurgique qui a été repris par le sidérurgiste indien Mittal et des constructions navales qui ont été reprises par des groupes danois et norvégiens. Donc, c'est vraiment une ville essentiellement industrielle.
Alors, les liens entre la Roumanie et la France sont anciens, ils sont multiples, ils sont notamment très fort sur le plan intellectuel. Il y avait une diaspora traditionnellement très présente, à la fois pour des raisons politiques dans les années 60, 70, 80, et puis antérieurement peut-être un peu plus mondaine. On va citer quelques noms d'artistes, vous en avez, je pense, à nous donner aussi. Il y a bien sûr la princesse Bibesco, il y a Anna de Noailles qui était une Roumaine, et Brancovent, on pense au philosophe Cioran, on pense à la princesse Suzzo qui était un modèle de Proust et l'épouse de Paul Morand, mais aussi... et on va y revenir, un dramaturge qui s'appelle Eugène Ionesco et dont je crois la fille est la présidente de votre association.
Alors, Eugène Ionesco, c'est un auteur français avant tout. Il a habité un peu en Roumanie.
À quel âge il est parti?
Il
avait une vingtaine d'années quand même.
Ouais.
Hein, il a fait ses études.
Oui, mais il a d'abord été en France. Il a été ensuite en Roumanie, où il a vécu un peu là-bas, où il a écrit quelques textes roumains et de la poésie, mais c'est surtout un auteur qu'il faut considérer comme un auteur français. Et Marie-France Ionesco, sa fille, est la présidente d'honneur de la bibliothèque. C'était un souhait enfin, du groupe là-bas de d'appeler la bibliothèque, enfin, de donner le nom à Eugénie Ionesco. Donc j'ai demandé l'autorisation à Marie-France Ionesco, qui a accepté et qui, je dirais, la marraine, je dirais, de cette bibliothèque.
Et Eugénie Ionesco, c'est quelqu'un dont la réputation est forte en Roumanie aussi.
Alors, sa réputation, oui, il est connu là-bas. Alors, pour cette bibliothèque, c'est peut-être intéressant de donner un petit peu l'historique de cette bibliothèque, à savoir, je disais qu'avant, elle était dans un collège excentré dans la ville, etc., qui a eu tout un tas de problèmes qui ont failli faire disparaître la petite structure qu'il y avait dans cette bibliothèque, qui était très exiguë, etc. Et en 98, nous, on a créé une association qui a permis, je dirais, 2 ans plus tard, d'acheter une maison en plein centre-ville de Galatz, pas très loin de l'université, pas très loin de lycée, de collège. Et on a ouvert une vraie bibliothèque française en 2001, qui s'est agrandie tout récemment, puisqu'on a réussi à faire acheter aussi une seconde maison qui était la maison accolée à la première, pour créer un lieu de rencontre. Là, ça a été, c'est opérationnel maintenant. Donc, on a vraiment un lieu assez grand qui fait à peu près 200 mètres carrés au sol.
Oui, une belle surface.
Donc, cette bibliothèque, actuellement, à peu près 16 000 documents écrits, 2 000 documents audiovisuels, et est fréquentée en majorité par des étudiants et des lycéens, à peu près à 90%.
Qui soutient aujourd'hui concrètement cette association et comment est-ce qu'on peut l'aider ?
Bon, alors, cette association a été soutenue au départ, dès l'année 2000, par le Conseil régional du Centre, qui est intervenu plusieurs fois depuis, soit pour des gros investissements comme l'achat ou les travaux des maisons qui ont été achetées. Elle a été soutenue aussi, dès le départ, par un syndicat départemental d'imprimeurs, celui du Loir-et-Cher, avec qui j'avais de bons contacts du fait que je suis éditeur. Et qui avait dès le départ salarié, qui nous avait donné le financement pour salarier à plein temps la bibliothécaire. Ce qui a été assez extraordinaire, parce qu'on avait la garantie pendant les 3 premières années d'avoir ce financement. Ce qui nous a permis d'avoir d'autres financements, justement, pour faire ces investissements. À partir de 2001, on a deux salariés maintenant qu'on a en charge. Donc ça pose chaque année évidemment des problèmes de financement et notre quête c'est justement de trouver tous les ans les moyens pour faire marcher cette bibliothèque.
Alors on donnera les coordonnées de la bibliothèque et de l'association sur le site de Canal Académie. Vous allez peut-être nous le redonner tout de suite sur l'antenne.
Alors le siège de écrire au nom de notre association, qui est un peu long, qui s'appelle Les Amis de la Bibliothèque française Eugénie Ionesco. Le siège est à la mairie de Saint-Claude-de-Diré. Alors, il faut écrire à mairie 41-350 Saint-Claude-de-Diré. Ça s'écrit, Diré s'écrit D-I-R-A-Y.
C'est parfait. Je précise qu'on redonnera ces coordonnées sur le site de Canal Académie. Jacques Hesse, merci d'être venu nous présenter ce projet magnifique qui soutient la francophonie en Roumanie. Merci d'être venu nous présenter votre maison d'édition. Alors avant de nous quitter, vous êtes très gentiment venu avec deux ouvrages qu'on va présenter à nos lecteurs. On parlait tout à l'heure de Claude Seignolle. Je ne sais pas si Vasile Voïkulescu est quelqu'un dont l'œuvre est proche ou non de Claude Seignolle. Vous allez nous le dire, mais en tout cas, il a publié chez vous, aux éditions S, un recueil de nouvelles qui s'appelle « Au milieu des loups ».
Vasile Voiculescu est un auteur roumain inconnu en France, très connu en Roumanie. C'est un auteur qui est né à la fin du 19e et qui est décédé en 1963. Et le plus connu en Roumanie, c'est une trentaine de nouvelles que je considère assez proches de l'univers de Claude Seignolle, pas des nouvelles assez fantastiques, qui sont issues de, je dirais, de la tradition populaire. Et j'ai publié, donc, il y a à peine un an, 3 nouvelles lesquelles ont été traduites par Nicolas Tafta, qui est cet universitaire de Galatz. Trois nouvelles, dont l'une raconte une histoire de meneur de loup, l'autre une histoire de loup-garou, et la dernière une histoire de chaman d'ours.
Et alors, autre très bel ouvrage, là c'est ce qu'on appelle un beau livre, Sapinta, le cimetière joyeux. Alors ceux qui sont allés en Roumanie connaissent souvent ce lieu qui est très visité, que les Roumains aiment beaucoup montrer aux touristes qui passent en Roumanie. Ce cimetière qui est situé, je crois, en Transylvanie, c'est ça ?
Alors ce cimetière, il est situé en bordure des Carpates, au nord-ouest de la Roumanie, pas très loin de la frontière hongroise et en limite de la frontière ukrainienne. C'est un gros bourg de 5000 habitants à peu près, où il y a, où dans les années 30, un sculpteur, un paysan sculpteur du village, a commencé à réaliser des croix en bois polychromé représentant
les habitants
à chaque fois les défunts, soit dans son activité principale, soit la cause de sa mort. Et donc c'est un lieu tout à fait étonnant. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est les épitaphes qui accompagnent ces croix, qui pour la plupart font rire les Roumains, parce que c'est dans un langage tout à fait particulier.
Oui, c'est un lieu très pittoresque. Pour l'avoir visité, c'est un lieu étonnant.
C'est un lieu étonnant, très poétique, je pense aussi, en même temps. Et donc ça, cet ouvrage-là, pour faire cet ouvrage-là, qui date de 1991, on était accompagné par Anca Melescu, qui nous avait servi d'assistante, qui a écrit et traduit une partie des textes et qui était devenue par la suite la bibliothécaire de la Bibliothèque française de Galatz.
Donc deux ouvrages qu'on trouve au catalogue des éditions S, Au milieu des loups de Vasile Voiculescu et Sapinta, le cimetière joyeux. Jacques S, merci beaucoup d'être venu dans ce studio de Canal Académie.
Merci de m'avoir invité.